Mesdames et messieurs, bonjour. Je commence par vous rappeler ce que vous savez déjà, sans doute. L'ordre du jour du séminaire de cette année, ce sera d'ailleurs mon dernier séminaire au collège, puisque je prends ma retraite à la fin du mois d'août. Donc, aujourd'hui, on va passer une heure seulement, autrement, la durée normale est de deux heures. La semaine prochaine, c'est Arnaud Le Pilouer qui va parler de la question de la structure de l'exécutif à Philadelphie et à Paris, donc dans les deux assemblées constituantes, la Convention fédérale à Philadelphie et la Constituante française de 89 à 91. Puis le 7 février, c'est Pasquale Pasquino qui va parler de la fonction constitutionnelle du pouvoir judiciaire dans la doctrine de la séparation des pouvoirs à Versailles, puis à Paris et à Philadelphie. Le 28 février, c'est Michel Tropper, qui va parler de la question du veto en France et aux États-Unis. Le 4 avril, je parlerai moi-même sur le sujet de esclavage et liberté dans les deux assemblées. Et puis, on termine par deux intervenants américains, dont le premier va parler en anglais, c'est Mark Tushnet de Harvard, Amending the Constitution, Process and Substance. Et on va faire traduire un résumé en français qui sera accessible au site web de ma chaire. Et enfin, on conclut par Michel Rosenfeld, qui est américain, mais francophone et bilingue, du Cardozo Law School, qui va parler de la comparaison des modèles constitutionnels français et américains, genèse et évolution. Il est peut-être utile de rappeler le contexte de ce séminaire. L'année dernière, mon cours au collège portait sur la Convention fédérale à Philadelphie, laquelle élabora une constitution qui fut ensuite ratifiée par les divers États de l'Union. Cette constitution reste toujours en vigueur, c'est la plus ancienne du monde, modifiée bien sûr par des amendements successifs. Cette année, mon cours au collège porte sur la première constituante française. Comme je ne cesse de le souligner dans mes cours, je ne suis ni historien ni juriste. Je m'intéresse, mais le mot est trop faible, à ces assemblées puisqu'elles permettent d'analyser en profondeur les structures des décisions collectives. De fait, avant de me pencher sur les deux assemblées constituantes, j'ai consacré le cours de l'année 2008-2009 aux principales modalités des décisions collectives, à savoir l'argumentation, le vote et la négociation. Dans mes cours sur les deux assemblées, américaines et françaises, je les ai constamment confrontées l'une à l'autre pour dégager soit leurs ressemblances, soit, plus souvent sans doute, leurs différences. Il s'agit pourtant là uniquement de comparaisons ponctuelles. Le but du séminaire est justement de permettre des analyses comparées ou des regards croisés, plus systématiques. Dans mes cours, je me suis surtout penché sur le processus d'écriture des constitutions plutôt que sur la substance de celles-ci. Dans le séminaire, je pense, mais je me trompe peut-être, que l'accent sera le plus souvent mis sur les documents eux-mêmes plutôt que sur les processus qui les ont produits. Nous allons avoir l'occasion notamment de discuter à deux reprises du rôle de l'exécutif, d'abord la semaine prochaine, de la structure de l'institution, et puis le 28 février, d'une compétence importante du chef de l'État, à savoir son pouvoir de veto. Nous allons également écouter des interventions portant sur le pouvoir judiciaire et sur les procédures d'amendement constitutionnel. Bien que la question des droits civils et politiques ne figure pas explicitement sur l'agenda, Michel Rosenfeld m'a indiqué qu'il en parlerait lors de sa présentation. J'aurai moi-même aussi l'occasion de me pencher sur la question des droits dans ma propre contribution, où je parlerai surtout de la contradiction évidente dans les deux assemblées entre les déclarations de liberté et d'égalité d'une part et la persistance de l'esclavage de l'autre, afin de montrer comment les constituants dans les deux pays firent face à la tâche difficile de gérer l'hypocrisie. Et pour vous donner un petit avant-goût de ma présentation, je vais vous citer une intervention de Robespierre dans un débat du 13 mai 1991 sur les droits politiques dans les colonies. quand un député proposa un amendement qui remplacerait dans la motion proposée les mots « personne non libre » par le mot « esclave », Robespierre s'indigna. Le plus grand intérêt dans cette discussion est de rendre un décret qui n'attaque pas d'une manière trop révoltante et les principes et l'honneur de l'Assemblée. Dès le moment où, dans un de vos décrets, vous aurez prononcé le mot « esclave », vous aurez prononcé votre propre déshonneur. Je me plains, au nom de l'Assemblée elle-même, de ce que, non content d'obtenir d'elle ce qu'on désire, on veut la forcer à l'accorder d'une manière déshonorante pour elle et qui démente tous ses principes. Lorsqu'on voulut vous forcer à lever vous-même le voile sacré et terrible que la pudeur même du législateur a été forcée de jeter, je crois que l'on aurait voulu se ménager un moyen pour attaquer toujours avec succès vos décrets, pour affaiblir vos principes, afin qu'on puisse toujours vous dire, vous alléguez sans cesse les droits de l'homme, les principes de la liberté, et vous avez si peu cru vous-même que vous avez décrété constamment l'esclavage. C'est un grand intérêt que la conservation de vos colonies, mais cet intérêt même est relatif à votre constitution et l'intérêt suprême de la nation et des colonies elles-mêmes, et que vous conserviez votre liberté et que vous ne renversiez pas de vos propres mains les bases de cette liberté. Et périssent vos colonies si vous les conservez à ce prix. Oui, s'il fallait ou perdre vos colonies, ou perdre votre bonheur, votre gloire, votre liberté, je répéterai, périssent vos colonies. Dans le même débat, Dupont de Nemours dit que s'il fallait sacrifier l'intérêt ou la justice, il vaudrait mieux sacrifier les colonies qu'un principe. Robespierre, quant à lui, affirma qu'il vaudrait mieux sacrifier les colonies que de nommer un chat un chat. De manière semblable, bien que la Constitution américaine ne contienne pas le mot « esclave », le texte arrive néanmoins à décrire très précisément la valeur d'un esclave comme 3/5 de celle d'un homme libre. Bon, je donne maintenant la parole aux intervenants ici présents. D'abord, Arnaud Le Pilouer, du Collège de France.
Oui, merci. Alors, je parlerai de la structure de l'exécutif. Alors, évidemment, la question de l'exécutif a été très importante sous les deux assemblées. Pour certains, il s'agissait même, en cette période révolutionnaire, d'une question tout à fait centrale, du point de vue, en tout cas, du droit constitutionnel. Cependant, je ne vais m'intéresser la semaine prochaine, donc lundi prochain, qu'à une petite partie de ce problème, en tout cas à seulement une partie de ce problème de l'exécutif. Je ne m'intéresserai pas à ses compétences, mais simplement à sa structure dualiste ou moniste. Alors, ces termes ne sont peut-être pas familiers à tout le monde, ça mérite donc quelques explications. Comme vous le savez sans doute, sous notre constitution actuelle, celle de la Ve République, comme d'ailleurs sous les précédentes républiques, nous disposons d'un exécutif dualiste, c'est-à-dire que nous avons un chef de l'État et un gouvernement qui se partagent les compétences exécutives et plus largement gouvernementales. Alors ce dualisme est en réalité une structure très répandue de l'exécutif dans le monde, même si ce partage des compétences entre les deux parties de l'exécutif ne s'opère pas toujours selon la même logique que sous la Ve République, loin s'en faut même. Il y a toutefois une exception notable à ce dualisme, c'est précisément la Constitution américaine, puisque, évidemment, les constitutions qui ont cherché à limiter. Le président des États-Unis, en effet, exerce formellement seul les compétences exécutives et gouvernementales. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'entoure de secrétaires d'État, dont certains nous sont bien connus. Et ces secrétaires d'État jouent un rôle évidemment non négligeable. Ils peuvent même éventuellement se réunir en conseil, tout comme notre gouvernement. Mais ces secrétaires d'État n'exercent alors aucune autorité constitutionnelle propre. Juridiquement, c'est le président qui est compétent. Seul le président est compétent et exerce le pouvoir exécutif. Il est juridiquement donc le seul titulaire du pouvoir exécutif. Il y a une formule célèbre de Lincoln qui disait « 7 non, 1 oui, le oui l'emporte ». Pour en revenir au XVIIIe siècle, cette solution institutionnelle américaine d'un exécutif donc moniste constitue alors une véritable nouveauté en 1787. En effet, dans le système anglais, mais aussi dans le système des colonies britanniques de l'Amérique du Nord, de même que dans les constitutions étatiques qui ont succédé après l'indépendance à ces diverses colonies, eh bien, il existe une forme de dualisme de l'exécutif. Alors, selon des modalités très différentes, on le verra selon les cas, mais une forme de dualisme, puisqu'on a soit un roi, soit un gouverneur, assisté d'un conseil exécutif. Encore une fois, ils n'ont pas tous la même forme. J'y reviendrai la semaine prochaine, mais enfin, ce dualisme existe. De même, quelques années plus tard, en 1789, l'Assemblée constituante française va aussi opter pour un exécutif dualiste. Alors, elle, à vrai dire, ne fait alors que reprendre, qu'entériner la situation existante, puisque le roi est déjà entouré à ce moment-là d'un conseil des ministres choisis et révocables par lui. Mais elle va consacrer cette solution très tôt, dès ses premiers décrets constitutionnels, puisque l'existence et le rôle, disons, général du ministère sont consacrés dès le 18e des 19 premiers articles constitutionnels que l'Assemblée constituante présente au roi pour leur promulgation le 1er octobre 1789. Alors, dans mon intervention de la semaine prochaine, je vais m'efforcer de comprendre pourquoi ces deux assemblées, qui sont plus proches qu'on ne le croit souvent du point de vue au moins de leur cadre conceptuel, ont opté pour des solutions opposées quant à la structure de leur organe exécutif. Alors, la question m'a intéressé, je dois le préciser ici, parce qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche plus vaste que je viens d'entamer, sur la question du dualisme de l'exécutif en République. Il me semble en effet que ce dualisme trouve très, très clairement son origine dans les systèmes monarchiques, que son implantation dans les régimes républicains n'est pas allée tout à fait de soi. Et donc je voudrais analyser le dualisme de l'exécutif en République, notamment au XVIIIe et XIXe siècle. La comparaison des choix des deux assemblées de Philadelphie et de Paris à cet égard sera l'occasion pour moi de commencer à tester donc certaines de mes hypothèses. La première de ces hypothèses sera que c'est en réponse en réalité à un même problème que un même problème formulé dans les mêmes termes que les deux assemblées ont apporté des solutions radicalement différentes. Et ce problème, c'est celui de la responsabilité des gouvernants. Alors je crois que le principe du collège, c'est d'enseigner la recherche en train de se faire, c'est ça. Et bon, moi, je vais pousser la logique encore un peu plus loin, parce que ce sera la recherche en train de s'entamer. Ce sera vraiment au tout début, mais je compte beaucoup sur les discussions avec le professeur Elster et les autres intervenants, et évidemment le public, pour commencer à soumettre mes premières hypothèses à l'épreuve de la critique.
Merci. Et puis, je donne la parole à Pasquale Pasquino de New York University et CNRS.
Oui, merci. Donc, dans 15 jours, donc, et cela s'enchaîne, je pense, avec le thème de l'exposé de Arnaud Le Pilouis, après l'exécutif, peut-être un parti en parlant de l'exécutif, je vais vous présenter une analyse comparée à propos d'une question, à mon sens, de la plus grande importance, en tout cas pour ceux qui étudient le constitutionnalisme. J'entends le constitutionnalisme tel qu'il s'est développé des deux côtés de l'Atlantique à partir de la fin du XVIIIe siècle. Il va s'agir, en fait, du rôle du pouvoir judiciaire dans la séparation ou dans la balance des pouvoirs dans nos deux systèmes constitutionnels. ou plus exactement du rôle que le pouvoir, ou comme on dit en France, l'autorité judiciaire, joue ou est supposé jouer dans la machine constitutionnelle. Que fait le pouvoir judiciaire dans la structure du système constitutionnel, dans le constitutionnalisme moderne tel qu'il est conçu et mis en pratique dans ces deux traditions qui nous intéressent ici. Or, pour ce faire, je vais m'appuyer pour l'essentiel sur deux textes importants et en un sens fondateur. D'un côté, je vais utiliser la section 78 des Federalist Papers, rédigée en 1788 lors des débats qui précèdent la ratification de la Constitution américaine dans l'État de New York par Alexander Hamilton, qui était lui co-auteur des Federalist Papers et l'une des figures importantes parmi les Founding Fathers de la Convention de Philadelphie. Ce texte, à vrai dire, c'est en tout cas l'hypothèse de mon ancien collègue des Noyaux, Larry Kramer, était peu connu à l'époque. Et c'est en plus un texte de doctrine. Mais ce texte fut repris pratiquement à l'égal dans une décision d'autorité, elle, très et même, je dirais, trop célèbre, une décision de la Cour suprême américaine, l'opinion du Chief Justice John Marshall, dans la célèbre opinion Marbury versus Madison de 1803. D'ailleurs, Hamilton et Marshall étaient très liés. Ils n'étaient pas seulement des amis et liés politiquement, mais ils avaient fait des études de droit dans la même School of Law. Et il est tout à fait évident que Marshall, en écrivant ce texte qui, lui, est beaucoup plus connu, et en tout cas qui est un texte d'une autorité judiciaire et pas un texte de doctrine, reprend l'essentiel des thèses de Hamilton dans le Fédéralisme 78. De l'autre côté, du côté donc de Versailles et de Paris, je prendrai en compte les écrits de Nicolas Bergasse, un avocat lyonnais, membre de la Constituante et auteur, comme vous le savez sans doute, des rapports qui sont à l'origine des grandes lois de 1790 sur l'organisation du pouvoir judiciaire en France. Bergasse était membre au début de la Révolution du groupe des monarchiens, comme on l'appelle dans le langage de l'époque, le groupe qui contrôla le premier comité de constitution, le comité de constitution de Mounier, de Lalique, d'Hollandal, dont les propositions furent battues en assemblée pendant l'été 89 par le soi-disant parti patriote, notamment sur une question sur laquelle on reviendra dans ce séminaire, celle du veto absolu que Mounier Lally voulait assigner au roi, et sur la question du bicaméralisme. Et je voudrais dire un mot sur les raisons de ce choix. Pourquoi parler de Bergasse ? Bergasse était un modéré. C'était pas un jacobin. Mais il a été en même temps un intellectuel, un avocat et un acteur politique, comme d'ailleurs Hamilton. Ça, c'est des acteurs politiques, des constituants, dont les positions, celles de Bergasse, j'entends, devraient nous aider à comprendre, tout en étant donc pas un jacobin, mais disons un montesquieuien, si on peut utiliser ce mot, enfin, et un des hommes les plus modérés de l'Assemblée. Eh bien, malgré ça, les positions de Bergasse, je pense, peuvent nous aider à comprendre la distance radicale qui sépare sur la question du pouvoir judiciaire le constitutionnalisme américain du constitutionnalisme français. Pour le dire d'une manière plus directe, il devrait nous aider à comprendre les raisons car moi aussi, comme Arnaud, je m'intéresse à l'histoire sous sa forme généalogique, parce que je pense qu'elle nous aide à comprendre le présent. Elle devrait donc, cette analyse des textes de Bergasse, nous aider à comprendre certaines des raisons pour lesquelles le contrôle de constitutionnalité des lois promulguées, je souligne promulguées évidemment, ce contrôle des lois promulguées a dû attendre en France l'année 2010 pour devenir partie de notre système politico-constitutionnel. Ce n'est qu'à partir du début du mois de mars qu'on a, au sens normal du terme, un contrôle de constitutionnalité des lois qui sont dans le système juridique en France. Aux États-Unis, on dit que c'est à partir de 1803, c'est un petit peu une exagération, mais en tout cas, ça a commencé beaucoup plus tôt. En guise d'introduction à mon propos du 7 février, je voudrais faire maintenant deux courtes remarques. La première est une remarque de méthode. On peut, dit-on dans les milieux de la science politique, en tout cas, tout comparer. Mais il faut être conscient que, puisque ce que je compare, moi, ce ne sont pas des quantités numériques, mais des doctrines et des institutions d'ordre constitutionnel, les différences comptent et doivent être prises en compte. La Constitution américaine, qui est toujours en vigueur, comme l'a rappelé Yonels, fut rédigée après une révolution, ce qui en fait est à mon sens un mot abusif pour qualifier ce qui a été en fait une guerre d'indépendance des anciennes colonies anglaises d'Amérique du Nord, une guerre d'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni. La Constitution de Philadelphie est la première constitution post-coloniale, si on peut utiliser ce langage à la mode de l'autre côté de l'Atlantique, et peut-être même ici, d'ailleurs. Le système constitutionnel français est né, en revanche, au milieu d'une énorme révolution sociale, laquelle s'est développée en même temps que le projet de donner une constitution à la France. Donc la révolution sociale et l'idée de donner une constitution au sens moderne du terme à la France se produisent en même temps. Or, ce projet de donner une constitution à la France a pris un siècle tout entier, comme l'avait montré François Furet dans son dernier livre. Et il ne s'est accompli et stabilisé qu'avec la Troisième République, laquelle d'ailleurs, d'une manière paradoxale, n'a pas eu au sens étroit une constitution écrite. Donc, dans cette comparaison, c'est ça que je voudrais dire, il faut tenir compte qu'il y a un contexte historique et d'histoire constitutionnelle profondément différent. Une constitution post-coloniale n'est pas la même chose qu'un travail de mise en forme qui se produit au milieu d'un extraordinaire tremblement de terre, qui est la Révolution française, et qui n'a de parallèle peut-être qu'aux États-Unis à l'époque de la guerre civile, et pas du tout à la fin du XVIIIe siècle, et ailleurs avec la Révolution russe et la Révolution chinoise. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'en Russie et en Chine, ça prend un certain temps pour stabiliser un ordre constitutionnel. Deuxième remarque, ils ne sont pas meilleurs que nous, ils ne sont pas pires évidemment, mais donc ils ne peuvent pas faire plus vite que nous. Ça, c'est une footnote. Et je passe à ma deuxième remarque, qui reprend un point sur lequel Jon Elst a attiré l'attention dans son cours de jeudi dernier. Il y a parmi tant d'autres une différence importante entre Philadelphie d'un côté et Versailles-Paris de l'autre, différente, ce qui nous importe ici. À Philadelphie, la Convention n'exerça qu'un pouvoir constituant. En fait, ou plutôt en théorie, elle exerça un pouvoir de révision constitutionnelle. Et puis, elle abusa de ce mandat, mais en fait c'était une assemblée appelée à revoir les articles de la Confédération américaine. L'Assemblée nationale française de 89-91, comme on a un autre exemple, il y en a peut-être beaucoup d'autres, mais j'en ai un à l'esprit, comme la Knesset israélienne d'aujourd'hui, était titulaire en même temps du pouvoir constituant et du pouvoir législatif. La loi française est, de même que la Constitution dans cette culture, l'expression de cette idée mystérieuse de volonté générale, une idée mystérieuse qui brouille la perspective qui était claire aux États-Unis d'une hiérarchie des normes et des pouvoirs entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif. Vous pouvez faire un simple exercice de lecture pour vous rendre compte de ce que je suis en train de dire. Comparez le texte de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen et celui des 10 premiers amendements de la Constitution américaine. Vous pouvez vous rendre compte tout de suite que dans la première, la Déclaration française des droits, il n'y a qu'une réserve de la loi à protection des droits des citoyens, dont la garantie est d'ailleurs la raison d'être de la Constitution, ce qui est dit par l'article 16 de la même. C'est-à-dire que les droits sont protégés, sauf s'ils sont transformés par la loi. En revanche, les droits des citoyens américains sont protégés par ce qu'on peut appeler une réserve de la Constitution. La loi ne peut pas porter, le Congress shall not, le pouvoir législatif ne peut pas toucher aux droits des citoyens, ce n'est que par des amendements constitutionnels, un autre sujet dont on va discuter, qu'on pourra modifier les droits fondamentaux des citoyens. Ça, c'est un truc intéressant, si vous voulez, enfin, qui montre une différence de langage sur lequel je vais revenir longuement en essayant d'expliquer ce que c'est que ce mot de loi dans la bouche des hommes de la Constituante et notamment donc de Bergasse, ce qui n'est pas du tout l'équivalent du mot statute chez les auteurs de la Constitution américaine. Mais voilà, tout ça avec plus de renseignements, si j'ose dire, le 7 février.
Merci. Merci Pasquale. Je donne la parole à Michel Tropper, professeur émérite de l'Université de Nanterre et professeur associé régulier, je pense, à diverses universités américaines.
Merci. Moi, je ne suis pas très avancé dans la recherche que je dois faire. J'ai plutôt fait un inventaire des questions que je vais traiter le 28 février. Et cet inventaire commence par des questions que je ne traiterai pas. D'abord, je ne traiterai pas de tout ce qu'on appelle veto aujourd'hui, où le terme s'est répandu bien en dehors de cette prérogative du pouvoir exécutif de s'opposer aux lois. Et il s'était d'ailleurs déjà étendu à l'époque dès 1787, parce qu'on parlait par exemple de veto pour désigner un éventuel pouvoir qu'on a finalement refusé d'accorder, mais un éventuel pouvoir du gouvernement fédéral de s'opposer aux législations des États. On appelait aussi veto un pouvoir qui était confié non pas au pouvoir exécutif seulement, mais à un ensemble dans la constitution de l'État de New York. La première constitution de l'État de New York, un pouvoir qui était confié au gouverneur, mais assisté du chancelier et des membres de la Cour suprême de l'État. Donc tout ça, on appelait ça veto. Et quelquefois, on parle aussi de veto au sens large pour désigner une prérogative qui ne s'appelle pas formellement veto, mais une prérogative qui appartient à diverses personnalités de s'opposer à une législation. Et le Monde d'aujourd'hui a un titre absolument extraordinaire, François Fillon s'oppose à une législation sur l'euthanasie. Donc ça ne s'appelle pas un veto, mais c'est bien ça. Et il dispose de ce droit, naturellement, non pas en vertu de la Constitution de la Ve République, mais en vertu de sa capacité de chef de la majorité et des prérogatives qu'il a dans la procédure législative. Alors donc, je vais restreindre, puisqu'on s'occupe uniquement de l'Assemblée constituante en 1789 et de la Convention de Philadelphie, je vais restreindre à la question du veto confié au chef du pouvoir exécutif, seulement au chef du pouvoir exécutif, donc le roi d'un côté, le président de l'autre. Et il se trouve qu'en effet, dans les deux constitutions, l'américaine et la française, on confie un droit de veto. Il y a un autre très commun entre ces deux vétos, c'est que dans les deux cas, il s'agit d'un veto partiel et non pas d'un veto absolu comme il y en avait en Angleterre. Mais ce sont deux modalités techniques pour rendre ce veto partiel. Dans un cas, la France, le veto peut être levé avec le temps. Trois législatures proposent le même texte dans les mêmes termes, alors le roi est réputé avoir accepté. Et aux États-Unis, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est à la majorité des deux tiers au Sénat que le veto du président peut être surmonté.
Dans les deux chambres.
Dans les deux chambres, pardon. Dans les deux chambres, c'est vrai. Alors, les questions qui sont à examiner, qui sont des questions en réalité difficiles. Après ces questions, je voudrais déboucher sur une espèce de typologie des vétos, non pas seulement dans ces deux assemblées, mais une typologie un peu plus générale du droit de veto du pouvoir exécutif. Alors, la première question est une question théorique, et de savoir si le droit de veto confère au titulaire du pouvoir exécutif un pouvoir de nature législative ou si c'est un simple appendice de la fonction exécutive. Et les deux thèses ont été soutenues, et elles ont été soutenues dans les deux assemblées. Les deux thèses ont été soutenues en réalité pour des raisons rhétoriques, parce que si on dit que c'est simplement un appendice de la fonction exécutive, alors le veto n'est pas du tout une exception à une règle de spécialisation, tandis que dans l'autre cas, bien sûr, il y a une exception. Et alors, il faut comprendre la séparation des pouvoirs autrement que comme une règle de spécialisation. Cette question de la nature exécutive ou législative du droit de veto, on peut la traiter de plusieurs façons. L'un des moyens habituels de traiter la question et de se référer à la célèbre distinction de Montesquieu entre la faculté de statuer et la faculté d'empêcher. Et je compte discuter moi aussi cette question d'interprétation. Je compte aussi faire le lien entre cette question et la doctrine du gouvernement mixte pour montrer que si l'on comprend que le droit de veto se rattache à la doctrine du gouvernement mixte, alors il s'agit très clairement d'un pouvoir de nature législative et il n'y a aucun inconvénient, même rhétorique, à admettre la nature législative de ce veto. Deuxième question qui a intéressé François Furet, dont parlait Pasquale tout à l'heure, est celle de savoir si le droit de veto est un pouvoir réel lorsqu'il s'agit d'un veto partiel ou d'un veto suspensif. Et on sait que François Furet a soutenu la thèse que ce veto suspensif n'était pas un pouvoir réel, que en donnant au roi ce pouvoir de veto suspensif, on ne lui donnait qu'une illusion de pouvoir, et que la totalité du pouvoir réel était restée ou restait entre les mains de l'Assemblée. Alors ici, naturellement, il y a une différence entre la question américaine et la question française, parce qu'aux États-Unis, la question de savoir si c'est un pouvoir réel ou pas ne se pose pas. Le pouvoir est bien réel, l'expérience l'a montré. Mais dans le cas de la France, la question se pose parce que la Constitution n'a été appliquée que pendant un an et que le roi a bien utilisé son droit de veto, mais en une occasion seulement, ça portait sur plusieurs décrets, mais en une occasion seulement, donc l'expérience n'est pas extrêmement concluante. Alors pour traiter de cette question, de la nature réelle ou illusoire du droit de veto, il y a deux techniques possibles, deux méthodes. L'une est la méthode historique, qui consiste à faire l'analyse des discours à l'Assemblée constituante et d'essayer de comprendre les intentions des constituants. Mais je vais soutenir l'idée que c'est une méthode extrêmement hasardeuse, parce que les discours ne peuvent révéler que les intentions des orateurs qui ont prononcé ces discours, mais ne révèlent pas grand-chose sur les intentions de ceux qui n'ont pas parlé et qui sont la grande masse, et aussi parce que on peut soupçonner les orateurs, et à mon avis c'est un soupçon parfaitement justifié, de ne pas exprimer leurs pensées avec la plus grande sincérité, si bien que quelqu'un peut parfaitement dire que on peut bien donner au roi ce pouvoir de veto partiel parce que ça n'est pas grand-chose, et donc il ne faut pas le lui refuser, et d'autres au contraire diront que c'est un pouvoir très redoutable, alors que les objectifs qu'il poursuit sont naturellement très différents. Donc il y a une deuxième méthode qui consiste à négliger les discours et à examiner non pas ce que les constituants ont voulu faire, qui à mon avis ne peut pas être découvert, mais à analyser ce qu'ils ont fait réellement, et de faire, ne pas se demander si Christophe Colomb voulait arriver aux Indes, mais de savoir où il est vraiment arrivé. C'est la question à mon avis la plus intéressante. Troisième question, rechercher les fonctions qui sont attribuées, alors cette fois-ci il faut revenir au discours, les fonctions qui sont susceptibles d'être remplies par le droit de veto du chef du pouvoir exécutif, et ces fonctions transparaissent à travers les discours. Et ici, il faut faire le lien naturellement avec la balance des pouvoirs, et on trouve aussi bien dans les discours des assemblées que dans les Federalist Papers des indications sur les fonctions. Et là, je cite pêle-mêle, mais je reviendrai naturellement plus en détail. La principale fonction, c'est le seul moyen de préserver une séparation des pouvoirs, parce que faute de veto, le pouvoir législatif envahirait le pouvoir exécutif. L'autre idée qui se rattache elle aussi à Montesquieu, c'est à la balance des pouvoirs, c'est que ça permet de garantir que la législation sera modérée. Et le veto a ici très clairement une fonction conservatrice. Et il y a peut-être un lien ici avec ce que rappelait Pasquale tout à l'heure, c'est qu'en France, on faisait une révolution et qu'il fallait introduire des réformes et éviter par conséquent de donner au chef du pouvoir exécutif un moyen d'empêcher ces réformes. Tandis qu'aux États-Unis, on ne faisait pas une révolution sociale, et empêcher les réformes ou l'absence de législation, ce n'était pas un mal en soi, au contraire, et je crois que si c'est Madison ou Hamilton qui le dit expressément, s'il n'y a pas beaucoup de lois, ben, tant mieux. Voilà. Troisième fonction possible, garantir la protection des droits fondamentaux. Le chef du pouvoir exécutif, avec son droit de veto, va garantir la protection des droits fondamentaux. C'est aux États-Unis, je crois, surtout que l'on invoque cette fonction-là. Et enfin, autre fonction possible, c'est être un substitut de contrôle de constitutionnalité des lois. Et c'est particulièrement vrai aux États-Unis, où ça a été dit, et pratiqué d'ailleurs de cette façon-là. Enfin, quatrième question, c'est de relier ça à la question dont Yon parlait tout à l'heure, qui est la question de la procédure, c'est-à-dire que dans les deux cas, il s'agit d'un compromis entre les partisans du veto absolu et puis les partisans de pas de veto du tout. Mais il s'agit de deux compromis différents. Mais aux États-Unis, Hamilton était favorable à un veto absolu dans les premiers textes, dans le premier projet qu'il a fait avant le fédéraliste, il était favorable au veto absolu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on a transigé et qu'est-ce qui a poussé au compromis. Et il me semble, ça c'est une hypothèse que je voudrais essayer de vérifier par la suite, il me semble que dans le cas des États-Unis, l'argument principal était que le veto absolu était une arme beaucoup trop lourde et par conséquent difficilement utilisable. Et l'exemple qu'on citait toujours, c'était le veto du roi d'Angleterre qui n'avait pas été utilisé depuis déjà près d'un siècle. La dernière, c'était 1701, je crois, le dernier usage du droit de veto. Et l'une des raisons que l'on donnait pour expliquer cet usage très très modéré du droit de veto, c'était que c'était trop lourd. Et enfin, il y avait une autre explication qui était que le roi pouvait s'arranger pour avoir une majorité qui ne vote pas des textes trop gênants. Et Hamilton disait, par contre, si c'est un veto partiel, alors le président hésitera beaucoup moins à l'utiliser, et ce sera donc un moyen de contrebalancer beaucoup plus efficacement les lois adoptées par le Congrès. Tandis qu'en France, le compromis est différent. Ce n'est pas simplement un compromis entre le veto absolu et pas de veto du tout. C'est un compromis avec une solution qui était la solution à l'anglaise complète, c'est-à-dire avec une chambre nobiliaire. Or, la chambre nobiliaire, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, était tout à fait inacceptable parce que ça aurait bloqué absolument toute possibilité de réforme. Donc, le veto partiel, c'est un substitut à la solution de la deuxième chambre. Voilà. Et je disais donc que je voudrais terminer en faisant une espèce de typologie de tous les procédés qui, aujourd'hui, peuvent être des substituts au veto, comme le line item veto, comme le signing statement des présidents des États-Unis, ou des choses comme ce qu'on voit à la première page du Monde aujourd'hui. Voilà.
Merci Michel, merci à tous les présentateurs. Avant d'ouvrir à une petite discussion, un petit quart d'heure de discussion générale, je voudrais peut-être faire une petite remarque sur la distinction entre l'analyse comparée et l'analyse causale. Je pense que dans la plupart de ces présentations, il va y avoir des comparaisons entre soit les deux constitutions, soit les deux processus constituants. On peut aussi se poser la question, on va peut-être se la poser, s'il y a eu soit des influences causales communes, par exemple des textes dont se sont inspirés les constituants dans les deux assemblées, soit même une influence d'une des assemblées sur l'autre. Notamment, évidemment, pour des raisons chronologiques, il faut que ce soit l'influence des Américains sur les Français. Et là, il y a effectivement eu des influences, puisque à la fois Thomas Jefferson, qui n'était pas présent à Philadelphie, mais qui était suivi de très près les processus, et aussi Gouverneur Morris, qui lui était constituant américain, était présent à Paris dans la phase cruciale de l'élaboration de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Donc ce serait peut-être une piste intéressante à un moment donné de suivre si l'on peut... c'est assez controversé. J'ai l'impression, Michel Pasquale, vous en laisse sans doute beaucoup plus là-dessus que moi, Jefferson... Lafayette, le marquis de Lafayette, dont la vanité était bien connue, se donnait volontiers l'honneur d'avoir importé en France les principes américains. Mais puis, il avait aussi le conseil de Jefferson, le conseil du gouverneur Morris. Et ce serait peut-être une dimension additionnelle. Donc, non seulement comparaison, mais aussi causalité. Bon, j'ouvre, comme je dis, à une discussion générale ou des questions, même peut-être des propositions.